Voilà, bonjour à tous. Quelle joie d'être ici avec vous aujourd'hui pour ce moment important, pour qu'on va prier donc pour ces ministères qui vont rejoindre et renforcer donc l'équipe d'anciens. J'aimerais justement préparer ce temps en intervenant avec l'écriture. Je voulais simplement vous dire que juste après cet après-midi, je dois aller retourner en Suisse, mais cette fois-ci, je vais à Bienne. Et il y a à Bienne une église qui prend pendant une année entière les jeunes après le baccalauréat, en gros. Et pendant une année, ils prennent tous les jeunes de l'église. Alors, tous les jeunes quittent leur maison et vont habiter dans la maison de quelqu'un d'autre. Et pendant une année, comme ça, ils n'ont pas le droit à Internet entre 9h et 17h. Et donc c'est vraiment une formation de disciples, mais vous savez, un petit peu comme Jeunesse sans mission, mais vraiment interne à l'église. Et cette année on a fêté les 10 ans de Master's Commission, ça s'appelle la commission du maître, Master's Commission. Et vraiment, moi j'avais vraiment très à cœur que notre réseau, hein, Luc, on puisse intégrer ça dans le réseau. Vous savez que dans les cultures anglo-saxonnes et germaniques, il y a l'idée, hein, tu me diras si j'ai raison, qu'il y a toujours cette idée que après le bac, en fait, il y a une année possible où on peut avant les études, avant d'en entrer dans l'université, ben prendre une année pour le Seigneur, pour approfondir sa foi, pour faire le point, etc. Et ça, c'est extraordinaire, cette culture là qu'il y a dans les pays anglo-saxons et germaniques. Et je me dis, il faudrait que, et je sais que ça vient aussi ici au travers aussi du Collège Daniel, hein, on voit les prémices de ça, mais il faut absolument que nous en France, dans l'Église, on fasse passer cette culture-là, parce qu'il faut qu'on ouvre cette fenêtre culturelle de l'année off, pour qu'on puisse, dans cette fenêtre culturelle, ensuite mettre un contenu comme une formation de disciples, comme ça serait vraiment génial. En tout cas, les résultats sont absolument formidables. Je voudrais vous en citer un qui m'a beaucoup fait rire et qui m'a beaucoup ému en même temps. Il y a un des étudiants que j'ai eu dans cette formation, parce que tous les ans, donc, je vais donner une formation à cette école, un des étudiants qui a entendu parler de Dieu comme père pendant cette semaine de formation, et vraiment, ça a été particulièrement fort pour lui. Et puis, aux 10 ans de l'anniversaire, là, il était là et il a donné un témoignage. Le Seigneur lui a mis à cœur un verset. Je voudrais vous le lire, ça sera mieux. Donnez-moi un tout petit instant. Voilà. Et ce verset se trouve dans Romains 8, 11, et par rapport à tous ceux pour lesquels on a prié ce matin pour la guérison, je crois que c'est une parole pour vous encourager. Voilà ce que, il s'appelle Matthew Golnick, qui a reçu ce verset, et quand il me l'a cité, ça m'a vraiment parlé et fait vibrer. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Et quand Matthew, après son année de formation, son année de disciple à Master's Commission, il est rentré, il a pris, mais alors, terriblement à cœur ce verset. De sorte qu'il s'est dit, mais si l'Esprit de Dieu habite en moi, si l'Esprit qui a ressuscité les morts habite en moi, alors je dois pouvoir ressusciter les morts. Et alors, il avait tellement à cœur de prier pour la résurrection qu'il attendait qu'il y ait un décès qui se produise. Il espérait même qu'un décès se produise, voilà, c'était son témoignage. Hein. Et puis, heureusement, l'opportunité s'est présentée. Son père lui dit, tu sais que mamie est décédée. Il a dit, yes, je vais aller prier pour mamie. Et le père lui dit, tu veux faire quoi? Il dit, je vais ressusciter mamie. Et alors, le père lui dit, alors, Matthew, on va aller à l'enterrement, c'est dans le Mississippi. Tu ne touches pas à mamie. Je t'interdis de ressusciter mamie. Tu m'entends? Je t'interdis de ressusciter mamie. Je t'interdis même de t'approcher du cercueil. Est-ce que c'est bien clair? Alors, ok. Alors il nous raconte qu'il est allé à l'enterrement de mamie, comme ça. Il est arrivé à l'enterrement. Et puis, il paraît-il que pendant la cérémonie, son père qui était comme ça, qui le surveillait du coin de l'œil comme ça, et dit, ben, du coup, je n'ai pas pu aller prier pour mamie. Alors, j'étais vraiment très déçu, et puis il raconte que, il dit, ouais, bon, quand on est dans le Mississippi, on profitait un petit peu d'aller au bord de la mer. Comme ça, il va au bord de la mer avec ses amis. Et puis, au moment où il est au bord de la mer avec ses amis, il assiste à une scène où on est en train de sortir un corps de la mer. On sort un corps de la mer et puis il y a des gens qui se précipitent et ça. Il arrive, les gens le mettent à l'écart et disent non, vous inquiétez pas, il se trouve que sur la plage, il y a trois médecins. Les médecins commencent à faire les massages cardiaques comme ça. Massage cardiaque, massage cardiaque, massage cardiaque. Et à ce moment-là, l'ambulance arrive comme ça avec, vous savez, c'est les trucs électriques, là, comme ça. Donc, l'électrochoc, ils font l'électrochoc plusieurs fois sur la poitrine. Et puis, les médecins disent, OK, ils regardent leur montre, il est telle heure, il est décédé. Matthew, il passe au travers des gens, comme ça, il prend les pieds du gars, il dit, au nom de Jésus, ressuscite maintenant, reviens à la vie. Le gars, pouf, il se lève comme ça, toute la mer, la mer qu'il avait en lui est sortie comme ça, en une seule fois, comme ça. La télévision est venue, les journaux sont venus. Voilà, j'ai dit, waouh. Je me dis que ça peut valoir le coup de prendre une année pour le Seigneur. Alléluia. Vraiment. Et je voudrais relire ce verset et le message, son message pour nous tous pendant ce 10e anniversaire de Master's Commission, c'était « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Lui, il a voulu précéder le temps. Hein? Alléluia. Une autre chose aussi, on a prié pour Genève et je voudrais vraiment vous remercier. Vraiment, cette ville est terriblement sur mon cœur et pour ce qu'elle représente aussi. Il y a quelques temps en arrière, peut-être déjà 2 ans en arrière, j'étais dans ce fameux parc, c'est le parc des Bastions, où il y a le fameux mur des réformateurs et que vous avez ces géants qui vous toisent comme ça. Et franchement, vous vous sentez comme un nain au pied de ces géants. Et puis alors que j'étais en train de prier, on avait une réunion très importante dans l'église dont je voudrais vous parler dans quelques instants. Ce sera le début de mon intervention. Lorsqu'on était donc dans ce temps, j'étais dans ce temps de jeûne et de prière, dans ce parc des Bastions, etc. Et je regardais ces géants, je disais « waouh, 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 waouh ». Et puis, vraiment, il m'a semblé que Saint-Esprit me disait « tu sais Pierre, en chacun des responsables de cette ville, hein, chaque personne en fait, il y a un géant et un nain ». Et je crois que c'est notre réalité, c'est notre dimension humaine. Nous avons tous un géant en nous, et puis il y a aussi un nain en nous. Mais le Seigneur m'a dit, tu vois, Pierre, si on pouvait rassembler tous les nains ensemble, on ne verrait plus les nains, on verrait que les géants. Parce que ce serait comme une grande forêt, finalement. On verrait plus ce qui est petit, on verrait que ce qui est grand et ce que le Seigneur a donné. Et ça me parle parce que pour moi, j'avais l'impression qu'on devait monter, vous savez, sur les épaules de ces géants pour devenir ces réformateurs. Mais je crois que simplement le Seigneur dit, ces géants sont en nous, il faut qu'on rassemble les géants. Il y a un rassemblement, il y a un travail d'unité qui doit se faire pour qu'on ne voit plus ce qui est nain, mais qu'on voit le géant de Christ et que le géant de la réforme vient. Vous savez que Genève, c'est une ville tellement particulière pour moi parce que c'est l'exemple même que le réveil et la réforme doivent travailler ensemble. Et que quand Calvin est allé à Genève, ce n'est pas simplement des églises qu'il a implantées, vous le savez tous, mais la ville elle-même a été fondée comme sur des fondements de Dieu. Et ce qui fait que, et ça on ne le sait pas souvent, c'est que beaucoup de princes dans le monde sont venus voir la ville de Genève. Voir la ville de la réforme et que c'est pas simplement on pourrait voir Genève comme un musée, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'au moment de la réforme Genève a été un modèle politique au sens noble du terme de la gestion de la ville et les princes du monde entier sont venus contempler, prendre exemple et beaucoup de villes dans le monde entier ont pris exemple sur Genève, ont pris le système politique et l'ont ramené après dans leur nation. Donc, j'allais dire Jérusalem. Genève a été une bénédiction pour beaucoup de nations dans le monde. Et je crois que ce temps n'est pas fini. Il faut vraiment que quelque chose se passe. Et de tout cœur, je crois, cette réforme, cette nouvelle réforme qui vient... Et on vit des temps formidables. Et puis j'ai tellement aimé ce qui se passe en Suisse allemande. Là, c'est formidable de voir ce mouvement de l'esprit et le miracle et la réforme qui viennent avec. Ça, c'est formidable. Quand je suis arrivé dans cette église de Genève, une chose qui m'a étonné, c'est l'esprit démocratique. Et vraiment, c'était incroyable, cette manière de voter dans l'église. On vote constamment dans cette église-là, on votait constamment. Et puis vraiment, on voyait que le peuple avait pris le pouvoir, finalement. Et en fait, j'arrivais dans une église où il y avait une grande crise avec les pasteurs, plusieurs étaient partis, etc. Vraiment, il y avait quelque chose. Et il y avait vraiment cet esprit de démocratie et dans l'Église et qui était très étrange pour moi. Et puis le Seigneur m'a donné un passage qui se trouve dans la lettre à Laodicée. Et j'ai commencé à lire et vraiment le Seigneur a commencé à déposer des choses concernant ce que c'est que le royaume, concernant ce que c'est que le gouvernement de Dieu, comment cette nouvelle réforme apostolique. Il y a énormément de choses comme ça. C'est vraiment un lieu pour moi de renouvellement, d'élargissement. Et dans cette lettre à Laodicée, on voit que le problème de Laodicée, c'est la tiédeur. La tiédeur. Sauf que la tiédeur, en général, c'est une température, et je le dis sous le contrôle de Dr Guth, c'est que la température n'est pas la cause d'un problème, enfin, il me semble pas, c'est plutôt le révélateur d'un problème. Et on a toujours dit, le problème de Laodicée, c'est sa tiédeur. La tiédeur, c'est plutôt le symptôme d'un problème plus profond. Et qu'est-ce que c'est que le problème plus profond de Laodicée qui fait que, finalement, le problème plus profond, c'est que Jésus est à la porte et il frappe et il demande à son église, est-ce que je peux entrer ? Vous voyez, on peut arriver à des systèmes humains comme ça qui rentrent dans l'église, qui rampent dans l'église, etc. Des systèmes humains qui font qu'à un moment donné, Jésus est à la porte dans son église, il est obligé de frapper, il frappe à la porte. Et pour dire, excusez-moi, je suis juste le propriétaire, mais est-ce que je peux entrer ? Est-ce que j'ai une place au milieu de vous ? Voilà. Et il frappe à la porte avec beaucoup, non pas avec cynisme, mais c'est vraiment triste cette situation d'imaginer que Jésus frappe à la porte. Et puis, cette église où je suis, il y a une très belle porte en bois, comme ça, c'est très vénérable, tout ça. Mais quand je passais devant cette porte, j'ai dit waouh, Jésus, tu frappes à cette porte là pour rentrer. Pour rentrer dans nos cœurs, de rentrer dans nos vies. Et ce que je voudrais dire, c'est que quand Jésus entre, il n'est pas obligé de respecter les systèmes humains. Et donc, je me suis penché, bien sûr, sur la signification de Laodicée. Et le mot Laodicée est composé de deux mots grecs. L'un, c'est Laos, ça veut dire le peuple. Et Diké, c'est un verbe qui veut dire conduire, enfin diriger. Et donc Laodicée, c'est une église dirigée par le peuple. Et finalement, cette église qui était dirigée par le peuple, eh bien, quand l'homme dirige, quand c'est le peuple qui ne veut plus de chef, et qui parce qu'il a sûrement souffert de chef dans l'histoire, dans son histoire, c'est la tendance qu'on a tous quand on a souffert de chef arrogant, eh bien, on veut plus de chef du tout. On veut qu'il y ait que des Indiens, mais on veut plus de chef. Et juste pour vous dire, quelqu'un qui a pensé comme ça, c'est Jean-Noël Darby. Vous savez, Jean-Noël Darby était un prêtre anglican. Et je voudrais vous dire que Jean-Noël Darby, par exemple, c'est quelqu'un qui, quand il a quitté l'église anglicane, à mon avis, il y a deux manières. Il y a une manière très élégante de quitter une église, mais une manière pas très élégante de quitter l'église anglicane. Et Jean-Noël Darby a de toute évidence choisi la manière la moins élégante. Il consistait à maudire les anglicans et à maudire quiconque irait à cette église. Il les menaçait de l'enfer, etc. Puis il y a une autre manière plus élégante, de dire, mais écoutez, excusez-moi, il me semble que le Seigneur m'appelle autre chose. Et que voilà, vous voyez, il y a des manières quand même plus élégantes. Mais en tout cas, Darby, c'était ce gars-là qui a maudit carrément les anglicans. Juste pour vous dire au passage que, heureusement que Dieu n'a pas entendu les malédictions de Darby, parce que j'étais actuellement au cours Alpha, vous savez, Alpha, à Londres, dans une magnifique église anglicane, et je peux vous assurer que le Saint-Esprit dans cette église anglicane, d'une manière absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. En tout cas, un des fruits, c'est les cours Alpha. Mais il y en a d'autres, croyez-moi. Leur but, c'est évangéliser et puis bénir la ville. Très très belle équilibre entre l'évangélisation personnelle, le fait d'aller. Il travaille beaucoup avec John Wimber dans les villes, dans les rues de Londres, comme ça. Il prie pour les gens dans les rues, comme ça. Il fait un travail avec les pauvres. Après, ils disent aux gens, priez pour vous. Là, les gars sont juste à peine convertis. Dès qu'il y en a un qui guérit quelqu'un, il dit, oh, bah, toi, tu dois avoir un don de guérison. Le dimanche suivant, l'église Cortitane, il dit, vous voyez ce gars-là, eh bien, figurez-vous qu'il a guéri telle et telle personne. On croit qu'il a un don de guérison. S'il y a des malades au milieu de vous, venez, il va prier pour vous. Le gars, ça fait quelques jours de conversion seulement. Et vous savez que pour rendre la dignité à un pauvre, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen plus efficace, n'est-ce pas ? Et puis, on était dans ce grand hall, Albert Hall de Londres, là. Et puis, la conférence avait lieu à cet endroit-là, ça s'appelle HTB, hein, Holy Trinity Brompton. Et il y avait cette grande loge comme ça que la reine d'Angleterre avait laissée. Elle avait dit, je vous offre ma loge de manière très magnanime pour votre conférence. Afin que vous puissiez mettre les personnes les plus honorables dans cette loge. Et tout d'un coup, Nicky Grumbull, qui montre la loge, il nous dit, voyez, mes amis, et à ce moment-là, la lumière est venue, nous avons choisi de mettre les gens les plus honorables parmi nous, et voici tous les pauvres de notre église. Et à ce moment-là, il y a eu un applaudissement, il y avait une présence de Dieu dans ce hall. Donc, monsieur Darby, tu aurais mieux fait de te taire, il me semble. Mieux fait de te taire. Et M. Darby, donc, comme il avait un problème à régler avec l'autorité, alors il a inventé un système complètement horizontal. Et ce système, il est venu le prêcher en Suisse. Un système où on ne veut pas de chef, on ne veut pas voir une tête qui dépasse, voyez-vous. On ne veut pas voir de chef, pas voir de tête qui dépasse. Mais paraît-il que quand M. Darby était là, on savait qui était M. Darby, que M. Darby était là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tous les systèmes qui prétendent éradiquer les têtes qui dépassent finissent toujours par voir des systèmes d'autorité et de puissance revenir de manière occulte. Ça, vous pouvez être sûr. Et finalement, l'esprit de l'Odyssée, c'est l'esprit du socialisme, du communisme, enfin je vais plutôt dire du communisme russe, vous savez, où on disait à chacun « camarade, camarade, camarade » camarade directeur d'usine, camarade ingénieur, camarade ouvrier, afin qu'il y ait un nivellement, on ne voulait pas avoir une tête qui dépasse. Mais c'est là où C.S. Lewis a raison, je vous invite à lire certains de ses livres où C.S. Lewis parle, il va dire que lorsqu'on arrive à un point où on redoute à ce point-là que les têtes se lèvent, qu'on arrive à un point où on arrive à ce point-là à vouloir une sorte d'égalitarisme et où on nivelle tout ce qui pourrait dépasser, on arrive alors à un paradoxe, celui de la dictature de la majorité. Et je voudrais juste vous dire que Christ, justement, a été crucifié par la dictature de la majorité. C'est devant les foules. Vous savez, ce Romain qui voulait libérer le Christ, mais cet homme n'a rien fait. Qu'est-ce que vous voulez ? Crucifie-le ! Et c'est à la majorité que le Christ a été crucifié. Beaucoup de choses qui se sont faites à la majorité qui ont conduit dans des choses qui sont injustes. Et Luc nous a juste parlé de cette loi qui vient de passer en Suisse. Elle vient de passer, Luc, cette loi ? Ouais. Elle a été votée pour. Hein. Et regardez comment on peut, au travers la dictature, la séduction de la majorité, finalement, manipuler et mettre ce que l'on veut. On peut investir. Il y a vraiment une guerre. Et puis, donc, vous voyez, l'esprit de la Odyssée, c'est pas simplement telle église dans cette partie d'Asie mineure, c'est devenu un mode de pensée dans le monde et la révolution bolchevique est passée par là, elle est une expression de l'esprit de l'Odyssée. Mais inversement, on a dans les mêmes lettres aux églises, les sept églises de l'Apocalypse, vous avez aussi un autre état d'esprit qui est tout aussi condamnable que cette dictature de la majorité, cette mise à plat, ce nivellement par le bas. Vous avez aussi la doctrine des Nicolaïtes. Ah, c'est intéressant aussi de lire cette doctrine des Nicolaïtes. D'ailleurs, il en est parlé de cette église dont, là où à Sardes, là où Satan a son trône, vous voyez, donc On est aussi dans un extrême, un autre extrême là. Et nicolaïsme, ça veut dire la première partie du mot Nicolas, hein, ça a donné le prénom Nicolas. J'espère que personne va se sentir vexé ce matin. Il y a un Nicolas ici? Non? Oh, alléluia, merci Seigneur. le préfixe de Nicolas, ça veut dire gagner, vaincre. Et puis on retrouve le même mot qu'on a trouvé dans Laodicée, hein, laïkos, hein, le peuple, vaincre le peuple. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir cet esprit qui consiste à vouloir voir aucun chef, mais n'avoir que des Indiens, et puis dans ce cas-là, c'est la puissance de l'homme qui se révèle dans des puissances qu'il a et qui finit finalement toujours par dominer de toute façon. Eh bien, dans cette illusion, il y a l'illusion, on va dire, laodicéenne, on va dire comme ça, l'illusion de Laodicée. Et puis là, c'est une autre illusion. C'est l'illusion de la dictature, du fait de dominer sur le peuple. Et on comprend bien dans notre humanité comment nous pouvons passer finalement de l'un à l'autre. Vous voyez, et je trouve que notre humanité produit toujours le même, tombe toujours dans la même erreur. C'est-à-dire que, je remarque ça constamment, c'est que quand nous avons été loin dans un extrême, c'est-à-dire dans une forme d'autoritarisme comme ça, on souffre dans ce système. Vous savez ce qu'on fait ? On fuit dans l'autre. Et on tombe dans le truc horizontal qui est aussi un extrême, etc. Et on est en droit de se poser la question, mais où est la pensée de Dieu ? Où est la pensée de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu a ? Est-ce que nous sommes condamnés à aller de Charybde dans Scylla, de Laodicée à Nicolaïsme, au Nicolaïsme ? Est-ce que nous sommes obligés de passer de la dictature, finalement, à ce communisme ? Est-ce que nous sommes obligés de fuir le communisme en nous réfugiant dans la dictature ? Je ne crois pas, bien entendu. Juste avant d'aller un tout petit peu plus loin, nous étions avec les enseignants là, dans une formation, et nous disions que finalement notre modèle éducatif en France est un modèle égalitaire. Juste pour vous dire comment est-ce que Dieu est un Dieu finalement égalitariste, ou est-ce que Dieu serait pas plutôt un Dieu d'équité ? Et je voudrais vous prendre simplement un exemple, c'est la parabole des talents. La parabole des talents, vous savez qu'il y en a un qui a reçu 5 talents, il y en a un autre qui en a reçu, c'est 2, hein, je crois, c'est ça ? 2, et le dernier en a reçu un seul. Non, c'est 5, 3, 1, il me semble. Peu importe, on va dire 5, 3, 1. Celui qui a la clé de cette parabole, à mon avis, c'est qu'il y a une expression qui, si on n'y prend pas garde, si on ne la lit pas attentivement, risque de nous faire rater le sens en fait, de ce que le Seigneur veut nous montrer. Donc le maître s'en va, il donne à l'un 5, l'autre à l'autre 3 et à l'autre 1. À celui qui a donné 5, il donne à 5 selon sa capacité. Celui qui en a 3, il lui donne selon sa capacité. Et celui qui en a 1, il donne selon sa capacité. Et je trouve que là, on a une image de ce maître qui est bien sûr le Père, qui est bien sûr notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que le Seigneur ne donne pas sur des critères extérieurs, il donne d'après des critères intérieurs. Et il donne à chacun en fonction de sa capacité propre. Alors admettons que je sois ce maître et je te donne 5 talents. Parce que j'ai vu ça, capacité. À elle, j'ai vu sa capacité, je lui donne 3 talents. Et à toi, j'ai vu ta capacité et je te donne 1 talent. Alors, ce n'est pas une prophétie, hein ? Rassurez-vous, c'est seulement un exemple. Hein ? Est-ce que j'aime mieux cette fille parce que je lui ai donné 5 talents et alors que je n'ai donné qu'un talent à elle ? À votre avis ? Non ? L'amour est égal entre les trois. Et à quoi se mesure l'amour entre les trois? Eh bien, parce que justement, à l'une, j'ai donné selon la capacité, à l'autre, j'ai donné selon sa capacité, et à l'autre, j'ai donné selon sa capacité. Maintenant, imaginons que je sois partisan de Laodicée. Ça va être quoi mon partage? Je vais vouloir être égalitaire, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, bon, à toi, je vais vous donner le même nombre de talents. Comme ça, vous serez sur un même pied d'égalité. Donc, toi, tu vas recevoir 3 talents, toi, tu vas recevoir 3 talents, et toi, tu vas recevoir 3 talents. Et je vais pouvoir me vanter d'être très égalitaire, n'est-ce pas? Oui? C'est une autre option, ça. Oui, oui, ça peut être ça, oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qui se passe si je donne 3, 3, 3? Regardez ce que produit l'égalité dans ce cas-là. L'égalité va produire une injustice, un déséquilibre, un désordre même. C'est parce que si je donne 3 talents à celle qui a une capacité de 5 talents, je vais la frustrer. Celle qui a une capacité de 3 talents, si je lui donne 3 talents, je vais la satisfaire. Elle ne va pas être frustrée, au contraire, elle sera satisfaite. Et celle qui a une capacité pour remporter 1, et si on lui donne 3, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être écrasée. Donc vous voyez comme quoi l'égalitarisme, qui est la justice qui se trouve dans notre propre chair, notre nature humaine déchue, à mon avis, parce que ces 2 systèmes dont j'ai parlé, ils se trouvent dans notre nature humaine déchue. Quand l'homme cherche le bon système, il va toujours trouver ces 2 systèmes-là, soit la dictature, soit l'égalitarisme. Eh bien, le système de l'égalitarisme, par exemple, va produire une injustice. C'est-à-dire qu'il va frustrer l'une, satisfaire la deuxième et écraser la troisième. Encore une fois, les principes de Dieu, Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Ce qui fait que c'est absolument pas sage, nous dira Paul, de se comparer les uns aux autres. Celui qui se compare les uns aux autres, nous dit Paul dans une épître, il n'est pas sage. Alors encore une fois, il est où notre modèle? Il est où notre modèle, le modèle que nous devons comprendre? C'est ni l'Odyssée, ni le nicolaïsme. Un cardinal de l'Allemagne de l'Est, il a dit quelque chose concernant l'Église que je trouve qui montre bien que nous devons vivre une sorte d'équilibre, mais tout en tension. Il a dit ceci, et j'aime beaucoup. Il a dit, l'Église n'est pas une démocratie parce que Jésus, notre Seigneur, mais l'Église n'est pas non plus une dictature parce que nous sommes frères et sœurs. Je redis cette définition, l'Église. L'Église n'est pas une démocratie parce que Jésus, notre roi des rois, notre Seigneur et des seigneurs, mais l'Église n'est pas non plus une dictature parce que nous sommes frères et sœurs. Alors, où est-ce que nous devons aller chercher le modèle? Où est-ce que nous devons aller chercher le modèle? Eh bien, je voudrais vous demander à David si tu peux nous montrer cette peinture. Cette peinture, c'est la peinture ou l'icône de Roublev. Alors, j'espère que je ne vous offense pas. Mais même dans la tradition orthodoxe, j'aimerais que vous sachiez une chose, c'est que cette peinture qui vient de la fin du Moyen-Âge, hein, qui a été peinte par un moine après 40 jours de jeûne. Il a jeûné pendant 40 jours et il s'est mis devant son tableau, devant un panneau de bois, puis il a commencé à peindre cette... Et il voulait donner une image, il voulait parler, il voulait nous parler, il voulait nous enseigner. Cette peinture, comme le disent les orthodoxes, n'est pas une reproduction, une représentation de ce qui se trouve dans le ciel. C'est un moyen d'enseignement, c'est un moyen d'enseignement. Moi, je la trouve personnellement à titre de... Enfin, j'aime la peinture en général. J'aime énormément la peinture, j'aime la musique, j'aime la peinture. La peinture me parle énormément. Et j'aime cette peinture, j'aime les couleurs, j'aime les teintes, etc. Et ce moine, après ses 40 jours de jeûne et de prière, où il avait été dans l'adoration de la Trinité, il s'est dit, je ne peux pas représenter la Trinité, c'est impossible. Comment je pourrais enseigner, faire une œuvre d'art, un élément de la culture, c'est la culture, ça devrait être l'expression du culte, un élément culturel qui pourrait à lui-même enseigner quelque chose au monde, enseigner quelque chose même aux analphabètes, ceux qui ne peuvent pas avoir accès à l'écriture, enseigner quelque chose. Et dans ce temps de jeûne et de prière, d'adoration, eh bien, il lui est venu cette idée. Et si je peignais en fait ces trois anges qui sont venus voir Abraham, et si ça vous intéresse, allez voir l'histoire de cette peinture sur Internet, c'est absolument extraordinaire. Et là, vous avez justement un symbole qui nous est donné de la Trinité. Et un symbole, ça veut dire ce qui rassemble, symbolé, qui ramène les choses ensemble. Et je crois que dans la Trinité, nous avons vraiment le modèle que nous devons comprendre. Et si nous adorons la Trinité, nous allons trouver la réponse à cette question de faut-il un gouvernement, faut-il pas de gouvernement? Et vous savez que cette réponse, j'en ai eu terriblement besoin, parce que je suis un fils de la France, je suis un fils de la Révolution, je suis un descendant de révolutionnaires, dans le sens où il y a dans notre génétique française, en tout cas dans notre histoire, qu'il y a quelque chose qui consiste à dire « nous ne voulons pas de la mitre, et on enlève la mitre, le problème c'est qu'on coupe la tête, oups, avec ». Il y a quelque chose comme ça. Nous sommes des coupeurs de tête, nous sommes des révolutionnaires en France. Et on a besoin de comprendre ces questions d'autorité, de ce que Dieu veut faire. Et notre modèle va se trouver dans la Trinité. Dans la Trinité, il y a bien sûr trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans la Trinité, c'est quand le Père parle, le Fils et le Saint-Esprit se taisent. Quand le Saint-Esprit parle, le Fils et le Père se taisent. En tout cas, quand il y en a un qui parle, les deux autres écoutent, se taisent. À la grande différence, n'est-ce pas, de nos émissions de télévision française et nos émissions de radio, où moi, des fois, je suis obligé de couper la radio, j'entends plus ce que les gens se disent, parce qu'ils n'arrêtent pas de se couper la parole. Dans la Trinité, il y a cette culture de l'honneur. Vous savez qu'il y a un livre qui est sorti sur la culture de l'honneur, mais d'où elle vient, cette culture de l'honneur? Elle vient de la Trinité même. Le Père honore l'Esprit, le Fils honore le Père et le Fils, le Saint-Esprit honore le Père et le Fils, c'est une culture de l'honneur, etc. Et il forme ce conseil extraordinaire qui a présidé à la création, et cette Trinité, elle est venue nous habiter. Vous pourriez bien sûr voir cette Trinité, bien sûr, loin de vous, dans le ciel, au-delà des nuages, etc. Alors, sans doute qu'elle est là où on pense qu'elle est, en tout cas, elle domine toute la création, elle domine tout l'univers, mais aussi cette Trinité, elle a une humilité extraordinaire, c'est qu'elle est venue habiter dans nos cœurs. Puisque je pourrais prendre rapidement, et je ne peux pas le faire parce que je ne voulais pas être trop long, mais je pourrais vous prendre trois versets dans le Nouveau Testament qui vous montrent que le Père vous habite, que le Fils est en vous et que le Saint-Esprit est en vous. Pensez simplement à ce verset, Matthieu 6:6. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, rentre dans ton cœur, et le Père qui est dans le secret te répondra. Christ en nous, Colossiens, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et le Saint-Esprit aussi qui est là. Donc il y a ce gouvernement trinitaire qui est là à l'intérieur de nous pour nous inspirer. Une autre manière de vivre, une autre manière d'être ensemble. L'Église doit devenir un modèle pour les nations et pas simplement une sorte de reflet pâle de ce qui se passe autour d'elle. Si l'Église doit être prophétique, elle doit vraiment refléter le modèle divin et ne pas refuser d'être influencée. Comme le disait un homme que j'aimais bien, il disait « l'Église devrait être un un thermostat et non pas un thermomètre. Vous voyez la différence entre un chrétien thermostat et un chrétien thermomètre ? Un chrétien thermomètre, c'est quelqu'un qui prend la température. Et il y a des spécialistes dans l'église de gens qui prennent la température. Et puis le chrétien thermostat, c'est celui qui donne la température, qui donne la note, qui donne. Alors, l'église, elle ne doit pas être une église thermomètre, elle doit être une église thermostat. Et nous avons tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. Nous avons ce modèle trinitaire. Et alors, ce modèle trinitaire est tellement important parce que Jésus nous a dit une chose et qui a trait à notre unité. Il a dit qu'il soit un en parlant de nous, en parlant du peuple de Dieu, qu'il soit un comme nous sommes un. Et rien que dans ce verset, vous comprenez que la Trinité, ce n'est pas simplement un cercle fermé sur lui-même, un cercle sectaire, drapé dans sa dignité. Qu'il soit un, comme nous, nous sommes un. Pour moi, je ne peux plus voir désormais, quand j'entends ce verset, je ne peux plus voir, vous savez, souvent on représente trois cercles comme ça, entremêlés les uns aux autres. Je ne peux plus voir trois cercles fermés, je vois des cercles ouverts. Je vois comme si nous étions invités à entrer dans cette Trinité, invités à venir. Bienvenue Pierre, bienvenue Jacques, bienvenue Joséphine, bienvenue dans la Trinité. Bienvenue dans le conseil, bienvenue au milieu de nous, bienvenue. Vous voyez, c'est pas un endroit fermé, clos, la Trinité est ouverte. Elle est ouverte pour que nous puissions y rentrer. Et elle est tellement ouverte pour que nous puissions y rentrer qu'elle a choisi pour ça de venir habiter en nous. Ça prouve son ouverture, ce désir de nous inclure dans ce cercle. Ce n'est pas un cercle privé, c'est un cercle universel, public même, je crois. Il vient dans notre vie privée, mais c'est un cercle qui est destiné à nous dépasser. Et dans la Trinité, essayons de voir comment ça se passe. Dans la Trinité, bien sûr, qui est-ce que vous mettriez en haut de la Trinité ? En général, on met le Père, n'est-ce pas ? Hein ? Le Père, ensuite il y a le Fils, puis ensuite il y a le Saint-Esprit. Et effectivement, quand on lit certains versets, on peut se rendre compte que dans la Trinité, on voit qu'il y a quelque chose qui ressemble à une hiérarchie. Il y a le Père qui parle au Fils, vous savez, le Fils qui rend honneur au Père, je ne peux rien faire sans que le Père, etc. Puis le Fils aussi qui envoie le Saint-Esprit en disant « Soyez remplis du Saint-Esprit », etc. Il, comme s'il donnait des ordres à l'Esprit Saint de Dieu. Hein. Ça, c'est sûr que c'est l'image naïve, la première image naïve qui s'impose à nous, donc d'un gouvernement avec une hiérarchie à l'intérieur. Et l'Église a d'abord vu cela. Mais si vous prenez d'autres versets, vous vous rendez compte que la Trinité aussi, il y a aussi, et peut-être aussi surtout, une véritable égalité entre les trois personnes. Vous avez le Père qui est Dieu parfaitement. Vous avez le Fils qui est Dieu parfaitement. Et vous avez l'Esprit Saint qui est Dieu parfaitement. Ce sont trois personnes qui sont Dieu à chacune leur manière, je l'oserais dire selon leur personnalité propre, mais elles sont parfaitement égales, ces trois personnes. Alors, comment on peut faire pour concilier ces deux aspects-là. Nous avons une égalité parfaite, et puis en même temps, on a l'impression qu'il y a aussi une sorte de hiérarchie, ou si vous voulez, de subordination. Eh bien, ce sont des orthodoxes, hein, et notamment un ami de Dostoïevski qui ont commencé à penser ces choses. Pour cette raison, j'ai voulu rendre hommage à l'Église orthodoxe, hein, au travers de cette icône. Ils ont réfléchi à la Trinité, ils ont commencé à adorer la Trinité. Et ils se sont dit, mais la Trinité, ce n'est pas simplement un modèle pour elle-même, c'est un modèle pour nous tous, pour le vivre ensemble, pour être en unité. Et voilà à la conclusion à laquelle ils sont arrivés. Ils sont arrivés à la conclusion que nous sommes créés à l'image de la Trinité, nous sommes comme elle. C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes parfaitement égaux. Les frères et les sœurs dans l'Église, nous sommes parfaitement égaux dans notre identité la plus profonde. Le même sang nous a rachetés. Le même prix, nous avons tous été rachetés au même prix. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il a une plus grande dignité qu'un autre. Nous sommes dans une parfaite égalité et cette égalité, nous la trouvons modèle dans la Trinité. C'est ce que ces gens appellent l'axe de l'égalité. C'est l'axe horizontal. Vous allez voir comment la croix qui est en train de se dessiner devant nous, l'axe de l'égalité. C'est-à-dire qu'entre ces trois personnes, il y a l'égalité, mais entre ces trois personnes, il y a aussi l'égalité au milieu de nous. Et puis, il y a au milieu sur le fondement de cette égalité-là, parce que le Père est parfaitement égal au Fils, le Fils est parfaitement égal au Saint-Esprit, et bien il y a une autre réalité qui traverse cette égalité. Et cette fois-ci, cette réalité-là, c'est une réalité comme l'a précisé Luc. Il a précisé que ce n'est pas des titres dont on va parler maintenant, mais on parle de fonction dans la Trinité. Et pour des raisons fonctionnelles, et bien le Père préside, il y a le Fils, et ensuite, il y a le Saint-Esprit. Et tout ce que Dieu fait sur la terre est fait d'après ce modèle-là, trinitaire. L'égalité et cette forme de subordination, on va dire, cette forme de hiérarchie. Ce qui fait que dans la Trinité, égalité et hiérarchie ne sont pas du tout contradictoire. Et vous voyez ce que l'homme, ce qu'il a essayé de faire, lui, il a essayé de séparer les deux. Et quand vous séparez les deux, vous amenez l'égalité trop loin, à un niveau et que rien ne peut traverser l'égalité, vous arrivez à la Odyssée. Et quand vous prenez l'axe vertical et que vous le poussez trop, trop, trop loin, sans l'équilibre de l'égalité, eh bien vous arrivez à le nicolaïsme. Donc la Trinité, ce n'est pas l'équilibre entre le nicolaïsme et l'Odyssée, attention. Hein. Sûrement pas. C'est cette idée que... Et l'image de la Trinité, c'est le couple, par exemple, l'image de la Trinité. Vous savez, vous avez plein de versets dans la Bible, et je pourrais venir avec plein de versets, vous prouver que l'homme est égal à la femme. Une parfaite égalité entre l'homme et la femme. Et puis, il y a ces autres versets qu'une autre partie de l'Église va prendre, par exemple, une autre tradition d'Église va prendre en disant « Mais non, regardez, les femmes doivent être soumises à leur mari, etc. » Et ils vont insister sur la verticalité de la relation, etc. Et le diable est content de faire ça. Il dit « Bon, alors, cette partie de l'Église, là, vous allez prendre tel verset, ok ? Cette partie de l'Église, vous allez prendre tel autre verset. » Donc, vous avez bien cette vérité, c'est bon, vous l'avez reçu cette vérité, ok. Vous avez bien reçu cette vérité, ok. Et ensuite, le diable prend le sifflet, il fait « et il siffle le début du match. Et malheureusement dans beaucoup de divisions qui se sont produites, et même, j'oserais même dire, dans beaucoup de divisions dénominationnelles, c'est ça qui s'est produit. De sorte qu'aujourd'hui, j'aime bien aller... prendre ce qui est bon dans toutes sortes d'endroits. Je ne suis pas syncrétiste, mais plutôt éclectique, dans le sens où, vous savez, ce faisceau qu'on a vu de drapeaux de différentes couleurs, il y a vraiment des choses très intéressantes à prendre et à nouveau à réconcilier, à nouveau à ramener ensemble. Et la Trinité, c'est ce qui nous ramène ensemble et qui nous prouve que dans le couple, effectivement, il y a aussi l'image de la Trinité, il y a aussi l'image de la croix. C'est-à-dire que l'homme, mes amis, la femme, sont absolument parfaitement égaux, en dignité, en essence, en tout ce que vous voulez. Vous ne pourrez jamais enlever cette réalité. Il y a une égalité parfaite entre l'homme et la femme. Parfaite, merveilleuse, une complémentarité extraordinaire qui nous rappelle l'axe horizontal du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pour des raisons, écoutez bien, fonctionnelles, de la même manière que le Père envoie le Fils envoie le Saint-Esprit, mais il y a aussi pour une raison fonctionnelle, eh bien, cette, cet axe vertical aussi, mais pour des raisons fonctionnelles, non pas à cause de que l'homme serait meilleur que la femme. D'ailleurs, il est dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire qu'une femme, normalement, devrait pouvoir se soumettre qu'à un mari qui est prêt à donner sa vie pour elle. Sinon, c'est une arrogance qu'un homme réclame la soumission de sa femme si lui-même n'est pas prêt à donner sa vie. Si tu n'es pas prêt à donner ta vie à ta femme, ne me parle pas de soumission. Que ce soit clair. Et donc, vous voyez, on trouve cela dans le couple. Et alors, on le trouve aussi, on pourrait le trouver dans les cinq ministères, et on le trouve aussi dans l'Église. C'est pour cette raison que dans l'Église, mes amis, et je voudrais m'arrêter là parce que je ne veux pas aller trop loin maintenant, et on va terminer par la prière. Dans l'Église, il y a cette réalité que nous sommes un corps qui a été modelé d'après la pensée trinitaire. J'ai oublié de vous dire, ne serait-ce que votre propre être est trinitaire, esprit, âme et corps. Et aux yeux de Dieu, votre esprit a exactement la même importance que votre âme. Et votre âme a autant d'importance que votre corps. Et si vous ne le croyez pas, croyez-moi, Dieu va ressusciter ce corps. Si ce corps était seulement un truc embêtant, qu'il faut traîner, etc., qu'il faut quitter pour devenir spirituel, pourquoi Dieu veut-il le ressusciter ? Pourquoi la Bible dit-elle donc que ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit ? Il redonne la dignité au corps. Et quand je vous vois adorer le Seigneur de toute votre force, hein, les sœurs, comment vous feriez sans un corps ? Hein, j'ai vu une sœur, là, je ne sais pas, elle doit perdre 2 kilos à chaque fois qu'elle loue le Seigneur, c'est extraordinaire. J'ai dit, ça, c'est, là, je peux voir ça. Hein, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, hein, et de toute ta force. Et même la force physique est imprimée. Ça veut dire que dans cette parole, il y a l'idée trinitaire que nous devons adorer Dieu dans nos trois dimensions qui sont égales en dignité. Seulement, mes amis, pour des raisons fonctionnelles, qu'est-ce qui doit diriger nos êtres ? L'Esprit Saint, qui, habitant notre esprit, doit donner des ordres à l'âme. Souvenez-vous David qui dit « Hé, mon âme, qu'est-ce que tu fais là ? Tu sais où tu es là ? Loue le Seigneur, mon âme. » Et dis donc, mon âme, tu ne serais pas un petit peu ingrate là, sur ce truc-là ? N'oublie pas aucun de ses bienfaits, s'il te plaît. Hein ? Sois pas oublieuse, mon âme. Souviens-toi, compte ses bienfaits. Tu verras combien l'Éternel est grand. Et mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi encore là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Arrête avec ton romantisme latent là. Arrête avec ton laisser-aller comme ça, ton romantisme, ton dolorisme. Écoute, mon âme, ok, hein, arrête avec ton char. Et puis l'âme avec en accord avec l'esprit, ben elle peut donner des ordres au corps. Hein. Et le corps, nous remercions Dieu. Le corps, l'incarnation, c'est pas une erreur, c'est pas un obstacle, c'est le plan divin de Dieu. Pour être visible. Christ a souhaité être visible au travers de votre corps, au travers de votre âme. Donc vous voyez, cette réalité-là, on la retrouve aussi dans l'Église. C'est pour cette raison que ça, c'est juste pour vous redonner une vision, parce que je sais que le temps a passé. Des fois, on ne sait plus pourquoi il y a des anciens dans une Église, pourquoi il y a un pasteur, etc. Je voudrais simplement vous dire que la raison d'être, ce n'est pas parce que des gens ont voulu porter un titre. La raison d'être, ce n'est pas parce que des gens voulait exister devant les autres. La raison d'être, c'est pas parce que des gens avaient un déficit identitaire, personnel. Ils disent, tiens, si j'étais ancien, ça serait pas mal, au moins j'existerais, vous voyez ? Non. Que Dieu nous garde de mettre de tels gens à de telles positions, si c'est ça leur motivation. C'est pour cette raison que le temps a passé au milieu de vous, vous avez éprouvé ces gens. Ces gens ont montré par leur vie, par leur service, par leur humilité, qu'ils ne cherchaient pas à augmenter leur identité. Mais parce qu'ils avaient trouvé l'amour de Dieu, ils ont commencé à agir parce qu'ils étaient déjà aimés de Dieu. Ils ne font pas ces choses-là parce qu'ils aiment le Seigneur, mais parce qu'ils sont aimés de Dieu. Et donc, dans cette égalité absolue qu'il y a chacun, entre chacun d'entre nous, à cause de la Trinité, ce modèle qui est là, fait que pour des raisons fonctionnelles, et non pas pour des raisons de titre ni de clergé, mais pour des raisons fonctionnelles uniquement, Dieu a mis dans le corps de Christ des évangélistes, des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des prophètes, pour que ces gens-là ne soient pas exaltés en dignité à cause d'un quelconque titre, mais du fait de leur fonctionnement qui prend sa source dans la Trinité, afin qu'ils puissent servir le corps de Christ et qu'ils puissent engendrer d'autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs, d'autres docteurs, d'autres, et non seulement dans l'église locale, mais dans toutes les sphères de la société. Et aujourd'hui, je voudrais vous demander d'accueillir ces personnes que je voudrais appeler maintenant.